Il est 12h30 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Ludovic Piétenu pour les informations. Bonjour Ludovic.
Bonjour Caroline et bonjour à tous. C'est un personnage important tué en Syrie. Mustapha Badreddine, commandant militaire en chef du Hezbollah, aurait péri dans une grande explosion près de l'aéroport de Damas. Des circonstances encore floues, l'homme était en tout cas une cible privilégiée pour Israël depuis des décennies. Nous appelons dans un instant notre correspondant Étienne Menin à Jérusalem. François Hollande en déplacement en Afrique sur le thème de la sécurité au Nigeria ce soir et demain dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Mais avant cela, passage éclair en Centrafrique. En ce moment même, après 3 ans de crise où tout est à reconstruire, nous nous intéresserons au désarmement des anciens combattants. Notre page politique avec aujourd'hui un invité, proche conseiller d'Alain Juppé. Il s'est occupé de son programme économique révélé cette semaine. Maëlle de Calan, 36 ans, publie un petit livre intitulé « La vérité sur le programme du Front National » chez Plon. Un livre qui s'adresse, selon lui, à tous les déçus de la politique tentés de voter FN. Et dans la deuxième partie de la grande table, nous parlerons, Caroline, d'un autre livre.
Nous parlerons d'un autre livre à 6 mois, jour pour jour, après les attentats du vendredi 13 novembre dernier. Ludovic, nous en parlerons à travers effectivement un livre qui revient sur la figure de ces djihadistes qui ont un désir sacrificiel, pour reprendre les termes de notre invité. Notre invité est le psychanalyste Fethi Ben Slama. Il a publié un furieux désir de sacrifice, le surmusulman. Nous lui demanderons ce qu'il entend par là.
C'était une cible de choix en Syrie. Mustapha Badreddine est mort tout près de l'aéroport de Damas dans des circonstances pas très claires, dans une grande explosion selon les termes du mouvement chiite libanais, le Hezbollah, qui annonce la mort de son commandant en chef, Mustapha Badreddine, mort en Syrie. Donc bonjour Étienne Menin.
Bonjour.
Notre correspondant à Jérusalem, Badreddine était un homme très important.
Oui, les Américains et les Libanais le présentent comme le commandant des opérations pour le Hezbollah en Syrie, celui qui est assis lors des réunions aux côtés de Bachar al-Assad et du leader chiite Hassan Nasrallah. Moitié opérationnel de haut niveau, moitié dandy à la sauce libanaise, le portrait de Mustapha Badreddine se lit dans les mots du procureur lors du procès du tribunal spécial pour le Liban, dans lequel il fait partie des accusés, jugés par contumace pour l'assassinat du premier ministre Rafik Hariri. Pour l'accusation, c'est un fantôme, un homme sans empreinte qui n'a ni passeport ni permis de conduire, mais c'est aussi le propriétaire invisible d'une bijouterie, d'un yacht, d'une Mercedes, un amoureux des femmes qui profite de son statut de nouveau riche. Mustapha Badreddine a pourtant commencé sa vie dans la ceinture pauvre de Beyrouth. D'après le Daily Beast, il a été entraîné au début de la guerre civile par les factions palestiniennes avant d'intégrer ce qui est à l'époque la matrice du Hezbollah. À un peu plus de 20 ans, il est soupçonné d'être derrière l'attentat qui vise l'ambassade américaine au Koweït, puis d'avoir trempé dans l'explosion monumentale du QG des Marines à Beyrouth. Sa signature, d'après le spécialiste Mathieu Levitt, c'est l'ajout de gaz dans le dispositif pour amplifier l'explosion. Badreddine doit une partie de sa carrière à Saddam Hussein, qui lui permet de s'échapper d'une prison au Koweït lors de l'invasion par l'armée irakienne. D'après le Times, il aurait dans son parcours commandé l'unité 1800 qui est chargée d'assister le Hamas et les Palestiniens dans le sud du Liban. Il a forgé son expérience aux côtés de son beau-frère Imad Mournier, tué en 2008 dans une opération attribuée par la presse américaine à la CIA et au Mossad.
Alors Étienne Menin, un homme fort du Hezbollah qui meurt, forcément l'État hébreu fait figure de suspect numéro 1.
Alors un ancien conseiller à la sécurité a déclaré tout à l'heure que c'était une bonne nouvelle pour Israël, mais que le pays n'était pas toujours responsable de ce type d'opération. On est actuellement dans une zone de flou. Le Hezbollah n'a pas lancé d'accusation. Le gouvernement israélien, comme toujours, reste muet. Le journal Haaretz dit, sans détailler les choses, que des signes montrent qu'Israël n'est pas derrière cette opération. En avril dernier, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, avait publiquement et pour certains a prudemment reconnu qu'Israël avait visé des dizaines de convois d'armes à destination du Hezbollah.
Étienne Menin en direct de Jérusalem, merci. Peut-être est-ce l'État islamique qui a réussi à viser Badreddine, c'est une autre possibilité. L'État islamique en Syrie, contre lequel a décidé de s'engager ce midi la Belgique, Bruxelles va étendre ses frappes aériennes et donc sa participation à la coalition en Irak et maintenant en Syrie. En Turquie, dans le sud du pays où l'armée fait face à l'insurrection des Kurdes du PKK, 8 militaires ont trouvé la mort, dont 2 à bord d'un hélicoptère qui s'est crashé. On compte également 8 blessés dans leur rang. 21 membres du PKK ont été tués dans d'autres combats. La Turquie qui négocie toujours avec l'Union européenne l'exemption de visa pour ses ressortissants suite à l'accord obtenu avec Bruxelles pour son aide dans la crise des migrants, une contrepartie en somme. Ces visas sont au cœur d'une discussion aujourd'hui entre les Turcs et le commissaire européen en charge de l'élargissement. Par ailleurs, Médecins sans frontières fustige une nouvelle fois aujourd'hui cet accord, le qualifiant d'abdication historique des responsabilités morales et légales de l'Europe. Cet accord prévoit entre autres le retour en Turquie de tout migrant arrivé en Grèce après le 20 mars de cette année. L'agence Frontex annonce ce matin de son côté qu'en conséquence, les arrivées en Grèce ont fortement chuté entre mars et avril de 90%, baisse de 13% seulement pour les arrivées en Italie. Les Italiens qui, au large de la Sicile hier, ont sauvé pas moins de 900 personnes à bord d'embarcations de fortune.
François Hollande en déplacement en Afrique, au Nigeria et en Centrafrique.
Au Nigeria ce soir et demain, le chef de l'État participera à un sommet consacré à la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Mais avant cela, en ce moment même, passage éclair à Bangui, en République centrafricaine, dirigé depuis le mois de février par Faustin Archange Touadéra. Hollande va donc le soutenir aussi la reconstruction du pays après 3 ans de crise. Une relance économique qui doit passer par la sécurité. On entend cela à Bangui. Pas de développement sans sécurité. C'est l'idée fixe, la priorité du nouveau président centrafricain qui discute avec les groupes armés pour qu'ils déposent les armes. C'est le programme DDR, comme on en connaît d'autres en Afrique. Autrement dit, désarmement, démobilisation, réintégration. Saber Gendoubi, le correspondant de Radio France Internationale à Bangui.
Ces dernières années, la Centrafrique a connu plusieurs crises. À chaque fois, des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion ont été mis en place. À chaque fois, c'est l'échec. À l'époque, les autorités rachetaient l'arme aux combattants. Cette année, une nouvelle tentative est lancée. Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA.
En ce qui concerne le prêt DDR, en échange des armes qui sont rendues volontairement, ces hommes et femmes sont employés. Ils ont un emploi et ils ont un montant qu'ils reçoivent.
Rencontre avec Youssouf Hamat, coordinateur d'une milice d'autodéfense. Il termine l'inscription de ses soldats.
Il y a exemple ici, vous voyez, après DDR, cette personne a choisi de faire la police. Il y a d'autres qui ont choisi de faire l'armée, d'autres ont choisi de faire la gendarmerie, d'autres ont choisi de regagner la fonction publique par rapport à leur niveau. Et donc c'est ce que nous sommes en train de préparer, un fonds de dossiers pour attendre les moments venus.
Le dispositif a été étendu à une dizaine de villes du pays. Près de 3000 combattants sont déjà inscrits au programme.
Saber Gendoubi à Bangui. Petite pression du Fonds monétaire international ce matin quant à une éventuelle envie de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne. Dans un peu plus d'un mois sera convoqué outre-Manche un référendum sur le maintien ou non, sur ce qu'on appelle le Brexit. Un vote de sortie, dit le FMI, entraînerait une période prolongée d'incertitude conduisant à de la volatilité sur les marchés financiers et porterait un coup à la croissance. C'est à lire dans le compte-rendu annuel du FMI sur l'économie britannique. Le Brexit, en voilà une question pour l'invité de ce journal, Maël de Calan, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence à Sciences Po, fondateur du think tank La Boîte à Idées. Vous conseillez Alain Juppé sur les questions de politique économique. On va en reparler. Si les Britanniques ont envie de quitter le navire, pourquoi pas? Est-ce qu'il faut les retenir?
Ils font ce qu'ils veulent, c'est un peuple souverain. Mais ce que dit le FMI, comme d'ailleurs la plupart des économistes qui se sont penchés sur le sujet, c'est que quand vous quittez une zone économique avec laquelle, enfin, qui est votre principal partenaire commercial, eh bien, c'est pas sans conséquences. Et en l'occurrence, enfin, si je prends l'exemple français, mais l'économie britannique est construite de la même manière, la France réalise 60% de ses échanges avec l'Union européenne, de sorte que si vous quittez cette zone économique, y compris pour rétablir des droits de douane, ce que ferait probablement pas la Grande-Bretagne, eh bien, il y a forcément un impact sur la croissance, il y a forcément un impact sur les mouvements de capitaux. Et si vous croyez ce que je crois, que le libre-échange est plutôt positif, plutôt bon pour la croissance, quand vous quittez une zone de libre-échange, vous avez de la décroissance.
Vous restez avec nous, on va parler de votre livre chez Plon, un livre qui s'adresse, vous le dites sur la quatrième de couverture, aux déçus de la politique qui sont tentés de voter FN pour, entre guillemets, essayer autre chose. On en parle dans quelques minutes.
Que l'automobile se porte bien n'est plus une nouvelle, les chiffres mois après mois sont très positifs.
Encore un coup d'accélérateur en avril de plus de 9% en un an en Europe pour les immatriculations de voitures neuves, près de 8% en France. Fiat et Renault s'en sortent mieux que les autres. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Ludovic.
Ce qui a retenu votre attention ce midi, puisqu'on parle de Renault, c'est l'accélération dans ce secteur des rapprochements. On connaissait déjà Renault-Nissan et on peut ajouter une prise de contrôle sur Mitsubishi.
Et voilà que se profile avec cette alliance Renault-Nissan, Mitsubishi, Mitsubishi Motors, un groupe qui se rapproche de l'objectif de Carlos Ghosn, produire 10 millions de véhicules à l'année. Grâce à cette alliance de trois constructeurs, eh bien on voit émerger un groupe qui va se classer juste derrière General Motors. Ce groupe, il sera en état de concurrencer Toyota et Volkswagen. Il s'agit donc d'une opération importante, avec ce paradoxe apparent que Mitsubishi, ce n'est pas un grand constructeur, ce n'est que le sixième au Japon, loin derrière Nissan, qui fait un chiffre d'affaires cinq fois supérieur. Mais c'est la promesse d'aligner plus d'un million de véhicules supplémentaires en absorbant le tiers de sa branche automobile. Opération intéressante, obtenue à prix bradé, moins de 2 milliards d'euros, qui n'est pas pour autant facile. Nissan aborde un groupe fragilisé, lequel n'a pas réussi à se positionné au cours des dernières années, à nouer des alliances avec d'autres constructeurs, qui a collectionné des problèmes techniques jusqu'à avouer des manipulations de tests de consommation de carburant très récemment. Ça porterait sur plusieurs centaines de millions de milliers de véhicules, plusieurs centaines de milliers de véhicules, un scandale qui a entraîné du coup la chute du cours en bourse de 40%. Il faudra donc rétablir la confiance. Le faire dans un ensemble à trois, c'est un pari jouable, pense-t-on chez Renault-Nissan, mais vous voyez que du coup, ce mariage automobile, eh bien, il déplace le cœur de l'alliance vers le Japon.
Jean-Marc Chardon, merci.
On ouvre une page politique avec une analyse comparée des programmes économiques du Front National et d'Alain Juppé.
Oui, c'était mardi soir, Caroline. L'un des 11 candidats déclarés à la primaire de droite du mois de novembre, l'ancien Premier ministre Alain Juppé, présentait son programme économique. C'est notre invité Maël de Calan qui est là pour en parler puisqu'il en est l'inspirateur. Maël de Calan, il se trouve que vos propositions, ont été décortiquées par le Front National. Christine Monclar.
Oui, on remarque une montée en puissance au Front National contre le projet global d'Alain Juppé. La dernière attaque en date vise plutôt son projet de société. C'est le Front National de la Jeunesse qui, ce matin, réagit sur le port du voile à l'université. Alain Juppé s'est encore exprimé sur ce sujet hier et il est contre l'interdiction du foulard à la fac, et cela depuis longtemps. Et le FNJ juge que Juppé est en cela aussi communautariste que Manuel Valls. Fin de citation. Mais ce sont les propositions économiques de Juppé qui sont en effet le plus souvent la cible du Front National tout court. Regardez son bilan plutôt que son programme, lance le parti d'extrême droite dans un communiqué publié hier. Ainsi rappelle le FN, lorsqu'il était aux affaires, Alain Juppé a vu augmenter de 200 000 le nombre de chômeurs et de 125 milliards les impôts directs et indirects via la hausse de la TVA ou de la CSG. C'est ce que précise le secrétaire général du Front National, Nicolas Bay. Il invite d'ailleurs les électeurs à ne pas avoir la mémoire courte. C'est une manière aussi de renvoyer Alain Juppé à sa longévité politique, lui qui était ministre pour la première fois il y a déjà 30 ans. Le fait que le FN se donne la peine de critiquer ainsi Alain Juppé peut aussi signifier une forme d'inquiétude de la part de ses adversaires potentiels s'il était désigné par la primaire de la droite.
Christine Monclar, vous restez avec nous pour interroger notre invité Maël de Calan. Je vous représente rapidement, seulement 36 ans. C'est vous qui conseillez Alain Juppé sur les questions économiques. On vous a invité pour votre livre sur le programme économique du FN, La vérité sur le programme du Front National. Ce qui est plutôt cocasse, c'est que les deux camps, pour faire vite, droite, extrême droite, s'observent. Se cherche des arguments précis pour se contrer. Est-ce que c'est dû à une porosité de votre électorat d'abord ?
Non, je ne pense pas que ce soit dû à une porosité de notre électorat. C'est dû à la montée du Front National qui prend des électeurs à gauche comme à droite et qui progresse à chaque scrutin. Et nous, ce qu'on pense, c'est que le combat sur le Front National, qui a jusqu'à présent été un combat essentiellement sur les valeurs, un combat moral, est toujours aussi légitime, mais qu'il est devenu inefficace à mesure que le FN s'est dédiabolisé. Et donc ce combat, parce qu'on juge que le Front National, ses dirigeants, son histoire, ce qu'il incarne et son programme méritent d'être combattus. Ce combat, il nous semble qu'il doit être poursuivi sur le terrain des idées, sur le terrain du programme. Et à mesure que le FN devient en quelque sorte un parti comme les autres, dans le sens où il a une audience électorale très large, il fait des propositions sur tous les sujets, eh bien il doit être traité comme les autres, c'est-à-dire qu'on lise son programme, les mots ont un sens, les promesses ont un coût, les décisions politiques emportent des effets. Et ce que j'ai voulu faire avec ce livre, qu'Alain Juppé a préfacé, c'est faire l'addition des promesses, et j'affirme qu'il ruinerait l'État, c'est faire tirer des conséquences des propositions qu'il formule et imaginer à quoi ressemblerait la France dirigée par Madame Le Pen. Et je résume ça par une idée, c'est le chaos économique et social et le climat de guerre civile.
C'est vrai que la petite parenthèse, vous l'avez signalé, c'est préfacé par Alain Juppé, c'est d'ailleurs un petit peu court, hein, cette préface, c'est un peu léger.
C'est pas son livre, il a pas voulu me voler la vedette et
on va dire ça.
Et je lui en suis reconnaissant.
Christine Monclar.
Alors sur la première partie de votre livre porte effectivement sur vous avez décortiqué le programme économique du Front National et vous montrez qu'il dit tout et son contraire. Peut-être un exemple rapide sur l'euro.
Sur l'euro, en réalité, sur l'euro, c'est peut-être le moins contradictoire. Moi, celui que je cite le plus souvent, la contradiction que je cite le plus souvent, parce que je suis élu d'une terre rurale, c'est la promesse qu'il fait aux agriculteurs à la fois d'augmenter les prix agricoles.
Vous êtes du Finistère.
Je suis élu dans le Finistère. Et le Front National promet, page 56 de son programme aux agriculteurs, que leurs prix vont augmenter. Et malheureusement, page 79, il promet exactement le contraire aux consommateurs, section pouvoir d'achat. Il promet que les prix du beurre, du lait, du sucre, il est assez précis, vont baisser. Et des propositions comme ça, flagrantes, qui sont même plus la marque de l'incompétence et du cynisme le plus total, il y en a dans tout leur programme. Juste un deuxième exemple, il a des déclarations fracassantes contre le droit de la concurrence qui fragilise nos champions dans la compétition internationale. Et donc on va réduire en miettes le droit de la concurrence au niveau européen. Mais en France, on va augmenter considérablement les moyens de l'autorité de la concurrence parce que le droit de la concurrence, ça fait baisser les prix et des prix bas, c'est bon pour le pouvoir d'achat.
Vous dites du cynisme le plus total, ça veut dire qu'il sert aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ?
Ah oui, alors ça c'est évidemment pas un scoop que les partis populistes disent à chacun exactement ce qu'il a envie d'entendre, mais ce qui est assez fascinant et pour tout dire un peu amusant quoi, quand on lit les 106 pages qui composent le programme politique du Front National, c'est que le FN n'hésite pas à être très précis dans ses promesses, y compris quand elles sont contradictoires, y compris quand les contradictions figurent sur la même page. C'est ainsi que dans la section entreprise, il y a un paragraphe qui s'appelle « Baisse du coût du travail ». Puis vous regardez trois lignes plus bas, ils promettent en réalité une augmentation de tous les salaires de 200 euros par mois et donc une explosion du coût du travail en réalité.
Alors Christine Monclar. Vous soutenez, vous conseillez donc un candidat à la primaire de la droite et vous concluez que le programme du Front National est plus à gauche que Mélenchon.
Ça me semble effectivement pas uniquement un slogan, mais ça me semble être la réalité, puisque le programme économique, les lignes de force, au-delà des contradictions, les lignes de force du programme économique du Front National, c'est d'une part des barrières douanières, d'autre part une dévaluation. Troisièmement, on finance les déficits par la planche à billets, donc il manque 80 milliards pour boucler le budget, bah, pas de problème. On imprime 80 milliards de billets et une relance keynésienne massive par l'augmentation des salaires. Et la somme de ces propositions en matière économique, ce qui en fait les lignes de force, on les retrouve dans le programme économique de Jean-Luc Mélenchon, on les retrouve aussi, et c'est là que c'est intéressant, dans des tas de pays qui conduisent cette politique. La politique de Mme Le Pen, aujourd'hui, elle est mise en œuvre au Venezuela, elle est mise en œuvre en Algérie, elle était mise en œuvre en Argentine jusqu'à l'alternance récente, elle a été mise en œuvre au Zimbabwe, donc que des pays qui cartonnent économiquement, hein, vous avez remarqué. Et donc c'est ça qu'on va chercher à dire, évidemment pointer les contradictions pour dénoncer le cynisme de ce parti politique qui dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre, mais aussi identifier les lignes de force et taper sur ces lignes de force pour expliquer où nous mènerait ce programme.
Qu'est-ce qu'il a conseillé Marine Le Pen sur les questions économiques ?
C'est essentiellement Florian Philippot et des gens qu'il a fait venir au Front National.
Bernard Monod, eurodéputé.
Oui, il y a un chef économiste en quelque sorte qui s'appelle Bernard Monod. Mais enfin, ce sont des gens...
Qualifiés ?
Non, honnêtement, on plus qualifiés probablement qu'ils l'ont été par le passé. Leur programme est moins absurde. Ils ont fait un effort de chiffrage. Ils ont cherché à détailler leurs propositions. Cela étant, moi, j'ai beaucoup regardé les interviews qui ont été données par Bernard Monod. Il parle par exemple des conséquences de la sortie de l'euro. Et il dit le cœur léger, ben oui, il est probable que les banques feront faillite. Parce que, comme ça s'est produit en Grèce, quand vous sortez d'une zone monétaire pour dévaluer la monnaie, eh bien les épargnants, les entreprises ne veulent pas être victimes de cette dévaluation. Donc cherche à fuir le pays dont la monnaie va baisser, et je m'arrête là, et donc la conséquence c'est que les banques font faillite. Bernard Monod l'assume, vraiment le cœur léger et les cheveux au vent.
Alors quand même une question sur l'immigration, hein. Vous essayez de dire le Front National met l'immigration responsable, place l'immigration responsable de tous les maux, mais là évidemment on en revient tout de suite au fait que vous soutenez donc Alain Juppé, et que du coup
on lit le livre,
je vais vous citer, page 160. Il est tellement plus facile d'expliquer à un chômeur qu'un immigré lui a volé son travail que de lui dire que tous les acquis sociaux qu'il recherche, CDI, difficile à rompre, indemnisation chômage, RTT, jours de congé, sont en réalité des boulets qui l'entraînent vers le fond.
Exactement, c'est-à-dire que, d'abord pour parler du FN, le FN aime bien taper sur les immigrés, parce que les immigrés dans son programme, c'est à la fois la cause des problèmes et la solution. 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, donc la mécanique est assez simple, mais il y en a d'autres. 70 milliards de déficit, c'est le déficit de l'année 2015, et le coût de l'immigration, on a de la chance, c'est aussi 70 milliards, estimé par le Front National, évidemment, c'est complètement absurde. Donc le FN aime bien avoir des ennemis un peu lointains, les immigrés, l'euro, qui sont à la fois la cause et la solution au problème.
Pour vous, ce sont les acquis sociaux.
Non, pour ce que vous venez de citer, moi, je pense, et Alain Juppé aussi, que les raisons du chômage endémique et de la croissance faible, c'est un coût du travail qui est trop élevé, une durée du travail qui est trop courte et un droit du travail qui est trop rigide. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut remettre en cause ce qui fait le fondement du modèle français, qui se caractérise par un degré de protection sociale élevé. Ça, on veut le maintenir. Mais pour pouvoir le maintenir, on pense d'une part qu'il faut le financer. Il n'est pas financé aujourd'hui. Il est financé depuis 35 ans par la dette, 2100 milliards d'euros de dette. Donc, d'une part, il n'est pas financé et on veut le financer, ce qui implique qu'il faut en réduire la taille. Et d'autre part, on veut le moderniser pour qu'il ne soit pas une entrave à la compétitivité des entreprises, mais qu'il l'accompagne en quelque sorte.
Maël de Calan, le programme économique d'Alain Juppé est d'inspiration libérale et ça convient à l'un de vos adversaires dans cette primaire de droite, François Fillon, qui s'exprimait chez nos confrères d'Europe 1 aujourd'hui. Cette inspiration me convient, dit-il, mais vous n'allez jamais au bout des démarches, c'est-à-dire votre programme, c'est un programme en version dégradée du sien, dit-il. Et en dernier ressort, toujours l'intervention de l'État, et c'est ça qui vous distingue. Donc vous, c'est ultra-libéral, mais étatiste.
Je ne sais pas si c'est ultra-libéral. Nous, on veut simplement mettre en œuvre en France ce qui marche partout ailleurs. Donc, on peut dire que c'est libéral. Nous, on met en œuvre ce qui marche en Allemagne, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.
Et François Fillon, encore plus libéral, alors.
François Fillon, il fait ce qu'il veut. Il y a des différences de gradient. Mais encore une fois, ça fait 40 ans. Les idées sont très puissantes en France. Et au nom d'idées très puissantes, on maintient au chômage 5,7 millions de personnes. Nous, on constate qu'il y a beaucoup de grands pays en Europe qui sont au plein emploi. On veut conduire la France au plein emploi.
Sur ce point-là, vous connaissez le Bon Coin ? Vous allez me dire, c'est quoi le rapport ?
Je connais le Bon Coin, j'ai jamais vendu mes cadeaux de Noël, bien sûr, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont plus recours à Pôle emploi et qui passent par le Bon Coin parce que c'est plus rapide, c'est plus direct.
C'est une scène qui se déroule hier après-midi, Maël de Calan, en banlieue lyonnaise, au cours d'une réunion avec des entrepreneurs. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Ludovic.
L'un des patrons explique à Nicolas Sarkozy qu'il recrute sur le Bon Coin. La scène est rapportée par un journaliste de RTL. L'ex-président rétorque, c'est quoi le Bon Coin ?
Oui, Nicolas Sarkozy ne sait apparemment pas ce qu'est le boncoin.fr, là où vous, moi, lui, elle, tous autant que nous sommes, pourrons bientôt acheter notre baguette de pain. J'exagère à peine. Depuis hier, les réseaux sociaux, Twitter en particulier, se déchaînent. Par exemple, Sarkozy ne connaît pas le Bon Coin, c'est normal, il n'a rien à vendre. Ou encore, Nicolas Sarkozy ne connaît pas le Bon Coin, il préfère eBay Tancourt. Bref, l'objet n'est pas ici de faire du poujadisme de bas étage en moquant notre ex-président qui, comme Jacques Chirac en son temps, ne savait pas ce qu'était une souris d'ordinateur. Non, au-delà de l'anecdote, on peut légitimement s'inquiéter que l'ex-chef de l'État, qui prétend le redevenir, ne connaisse pas une entreprise comme le Bon Coin. Parce que le boncoin.fr est justement utilisé par plus de 20 millions de personnes par mois. C'est donc le quotidien des Français. C'est un site qui existe depuis 10 ans, depuis 2005. Et c'est donc une start-up française qui a réussi, emblème de la nouvelle économie, et qui diffuse presque autant d'offres d'emploi ou de services que Pôle emploi. Et en cela, c'est une de ces entreprises qui a permis à bon nombre de personnes de faire face à la crise à partir de 2008. Crise qui s'est déroulée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. On a donc là une illustration assez frappante et assez préoccupante de cette déconnexion de nos responsables publics avec notre société en pleine évolution, pour ne pas dire en pleine mutation. D'ailleurs, en cela, je me permets de vous renvoyer à une étude réalisée par l'Institut de l'entreprise, consultable en ligne gratuitement, et qui s'intitule « La France du bon coin ». C'est très intéressant cette étude parce qu'elle nous explique justement en partie la mutation à l'œuvre. Si le bon coin prospère, nous dit-elle, c'est parce que face à la déstructuration de l'économie traditionnelle, il y a un besoin de se réapproprier le marché, de redevenir un acteur du marché. Et ça concerne tout le monde, du bénéficiaire du RSA au cadre d'entreprise qui arrondit ses fins de mois en proposant de faire un peu de comptable pour des TPE le week-end. Bref, le bon coin.fr, c'est non seulement notre avenir, mais aussi peut-être ce qui va nous permettre de comprendre notre avenir. Et du coup, Nicolas Sarkozy, mais aussi François Fillon, ou Alain Juppé ferait bien de s'y intéresser.
Maël de Calan, inspirateur du programme économique d'Alain Juppé, c'est vous qui surfez sur leboncoin.fr pour en parler au maire de Bordeaux.
Je ne suis pas l'inspirateur, je suis un collaborateur d'Alain Juppé sur les questions économiques. Ce qui est sûr, c'est que Juppé, depuis notamment qu'il est revenu du Canada, il se fait l'avocat d'un nouveau modèle de croissance, sobre, circulaire. Je pense que s'il était à ma place, il dirait qu'il préfère que les gens revendent leurs cadeaux de Noël balles sur le bon coin plutôt qu'ils les jettent, parce que ça évite un gâchis, ça évite une croissance qui est mauvaise. Donc je ne sais pas s'il va régulièrement sur le bon coin, mais ce qui est sûr, c'est qu'il adhère à ce qu'incarne ce site internet en termes de changement des comportements économiques.
Maël de Calan, c'est chez Plon, la vérité sur le programme du Front National. Préface d'Alain Juppé, merci d'avoir été l'invité de ce journal. Un mot du temps de ce vendredi 13 mai 2016 et puis du week-end, toujours pluvieux, nuageux, nous dit Météo France. Quelques éclaircies tout de même à espérer cet après-midi par l'ouest. Température sur la moitié nord et sur les bords de la Méditerranée, 18 à 22 degrés, ailleurs un peu plus frais, 14 à 16 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h, Sophie Delpont. Juste avant, à 17h, le magazine de la rédaction, 6 mois après les attentats du 13 novembre à Paris, Sarah Petitbon et Annie Brault vous proposent Ma vie après le 13 novembre, témoignage de rescapés à suivre donc de 17 à 18h sur France Culture.